Voici une question dont la réponse va réjouir les uns et décevoir les autres. Que faut-il faire pour être le premier dans le royaume de Dieu? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Que vous soyez croyant ou non, je suis certaine que nos questions d'aujourd'hui vont vous intéresser énormément. Les voici. Est-ce que Dieu peut pardonner à quelqu'un de s'être divorcé? Est-ce que l'adultère est une cause admissible de divorce? Est-ce que Dieu désire que nous ayons la foi d'un enfant? Est-ce qu'on peut acheter la vie éternelle? Devons-nous travailler pour recevoir des récompenses et mériter une position dans le royaume de Dieu? Que faut-il faire pour être le premier dans le royaume de Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a fait des recherches dans la Bible et il est prêt à nous donner tout ce bon enseignement qui vient de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on désire que tu nous enseignes encore aujourd'hui. On a besoin de ta parole pour que notre vie puisse être agréable. On veut se réjouir en toi, se réjouir de l'enseignement que tu vas nous donner. Parle-nous, Seigneur, on écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, dans ce 10e chapitre de l'Évangile selon Marc, Jésus se met en route vers Jérusalem. Il quitte la Galilée sans annoncer son départ et il passe par le côté du Jourdain dans la région de la Décapole. Il enseigne la foule qui vient vers lui. Les ennemis de Jésus le suivent et les pillent. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, versets 1 et 2. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent. Et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Les pharisiens ne posèrent pas cette question pour obtenir une réponse, mais pour piéger Jésus. Ils avaient déjà une opinion ferme sur la question du divorce. En demandant à Jésus s'il était permis à un homme de répudier sa femme, les pharisiens désirent que Jésus se prononce sur une question sensible, puisque le roi Hérode a répudié sa femme, et Jean-Baptiste a été décapité parce qu'il a dénoncé ce péché. Jésus ne devait pas aller à la croix pour cette raison. Si Jésus répond non, il risque d'entrer en conflit avec Hérode, en plus de contredire Moïse. S'il répond oui, ils lui reprocheront d'être laxiste dans son enseignement. Jésus emploie sa méthode habituelle pour éviter le piège. Il répond par une question. Versets 3 et 4. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?»« Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. » La réponse était facile à prévoir, vu que Deutéronome 24, versets 1 et 2 dit « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. » Moïse a permis le divorce, mais ce n'était pas l'intention originale de Moïse, ni de Dieu. L'idée était encore moins de permettre le divorce pour des peccadilles, mais éventuellement l'élite religieuse a interprété la loi afin de permettre le divorce même pour un repas brûlé. Cependant, Jésus va revenir à une question plus fondamentale et importante à comprendre. Plutôt que de discuter du divorce, il va discuter de la question du mariage. C'est plutôt de cela que nous avons besoin de parler aujourd'hui. Bien des gens questionnent un pasteur au sujet des causes de divorce admissibles, mais elles ne le consultent pas lorsqu'il est temps de se marier. Elles demandent simplement s'il est disposé à faire la cérémonie. Jésus explique pourquoi Dieu a permis le divorce, mais il parle ensuite du mariage. Versets 5 à 9. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Jésus ramène ses auditeurs à l'intention originale de Dieu avant la chute et le péché. Le divorce ne faisait pas partie du programme de Dieu qui avait quelque chose de meilleur en vue. De même, le meurtre ne faisait pas partie du plan de Dieu, mais un meurtrier peut être pardonné. Le divorce est un péché, mais les divorcés peuvent être pardonnés, même que dans certaines circonstances, ils peuvent se remarier selon la Bible. Je ne comprends pas que l'on accepte de pardonner à un meurtrier, mais qu'on refuse le pardon à une personne divorcée. Nous agissons comme si cette personne avait commis le péché impardonnable. Une personne sauvée après un divorce ne devrait pas en porter les stigmates plus qu'une personne qui a commis un autre péché. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Le divorce fut simplement leur péché. Jésus enseigne que le mariage est un lien plus fort que celui entre un parent et un enfant. Un enfant peut être désavoué et un mariage brisé par l'infidélité. Jésus montre que le mariage est une union faite par Dieu. C'était l'intention originale du Créateur. Toute violation de celle-ci est un péché, mais ce n'est pas le péché impardonnable. Le problème, c'est que l'on épouse souvent la mauvaise personne. Il me semble que l'on ferme l'écurie après que le cheval soit sorti. C'est avant notre mariage qu'il faut consulter des personnes matures spirituellement. De nombreuses personnes qui ne devraient pas se marier le font tout de même. Le péché, c'est d'abord qu'ils se sont mariés. Mes amis, le mariage est quelque chose que Dieu veut arranger pour vous si vous le laissez faire. Versets 10 à 12. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Voilà l'énoncé contre le divorce, le plus fort que l'on trouve dans la Bible. Comment devons-nous l'interpréter? D'abord, il faut considérer tous les versets sur ce sujet afin de tirer la bonne conclusion. Matthieu donne l'adultère comme une cause admissible au divorce. Pourquoi alors Marc ne le fait-il pas? Marc écrivait aux Romains, qui ne connaissaient pas la loi mosaïque sur le divorce, alors que Matthieu s'adressait à Israël, qui connaissait la loi. Nous devons tenir compte de cela. Par contre, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, verset 2, ne traite pas de la question de divorce. Je cite, « Ainsi, une femme mariée est lié par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Ici, Paul utilise une loi bien établie et bien connue afin d'illustrer la relation entre un croyant et la loi. Selon la loi mosaïque, le conjoint infidèle devait être lapidé. Deutéronome, chapitre 22, les versets 22 à 24. Si nous faisions cela encore aujourd'hui, les employés municipaux ne feraient que ramasser des roches dans la rue. Les enfants sont les victimes innocentes des divorces, ce qui ajoute à la gravité du péché. De nombreux enfants sont marqués à vie par le divorce de leurs parents. Ce n'est pas une coïncidence, mais c'est le résultat du péché. Pourtant, Jésus aimait et accueillait les enfants. Versets 13 à 16. On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touche, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Les enfants n'avaient pas à attendre d'être adultes pour s'approcher de Jésus. Des parents attendent que leurs petits grandissent, espérant qu'ils prendront une décision pour Christ une fois adultes. Le Seigneur Jésus affirme qu'il aimerait que les adultes deviennent comme des enfants. Nous parlons de la croissance et de développement personnel aujourd'hui. Cela est bien si vous êtes devenu un enfant de Dieu. Mais il faut cesser de se fier à notre intelligence et nos connaissances et retourner à la simplicité d'un enfant et faire confiance à Christ avec cette foi enfantine. Christ a pris des enfants dans ses bras. Il les accueille. Versets 17 et 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » À notre époque de matérialisme, grâce. L'enseignement tiré de cet épisode avec le jeune homme riche s'applique encore. Jésus essaie de faire réfléchir le jeune homme. Il appelle Jésus bon alors que seul Dieu est bon. Reconnaît-il que Jésus est Dieu? Versets 19 et 20. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus lui donne les commandements qui s'appliquent aux relations entre les hommes, soit les commandements dans la deuxième partie des tables. Le jeune homme suivait ses lois et il le dit à Jésus. Versets 21 et 22. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va. » « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus lui a dit qu'il lui manquait une chose. C'est sa relation avec Dieu qui n'allait pas, et ses richesses étaient l'obstacle. Il avait appelé Jésus bon, et s'il avait suivi Jésus, il aurait découvert que Jésus est bon, parce qu'il est Dieu. Jésus l'invite à se séparer de ses richesses et de le suivre. Cela l'aurait mené à la croix pour le rachat de ses péchés. En effet, Jésus était en route pour le calvaire. Malheureusement, le jeune homme a préféré ses richesses à la grâce de Dieu et à une relation intime avec Jésus. L'apôtre Paul a dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Il répète l'enseignement que Jésus donne dans ces versets. L'argent achète bien des choses, mais pas la vie éternelle. Un homme ne peut entrer au ciel grâce à son argent. Personne ne peut entrer au ciel par ses propres moyens. Versets 23 à 25. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et, reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Seul Dieu peut nous faire entrer dans son royaume. Plusieurs pensent qu'on peut tout acheter avec de l'argent, mais quelqu'un a écrit « L'argent achète un lit, mais pas le sommeil. L'argent achète de la nourriture, mais pas l'appétit. L'argent achète des médicaments, mais pas la santé. L'argent achète une maison, mais pas un foyer. L'argent achète un diamant, mais pas l'amour. L'argent achète un banc d'église, mais pas le salut. » Jésus a invité le jeune homme à se défaire de la barrière qui le séparait de Dieu. Jésus a donné un avertissement au sujet des richesses. Maintenant, rendons-nous au verset 32. Jésus va aborder le sujet de sa mort et de sa résurrection. Jésus a toujours parlé de sa résurrection en même temps que sa mort. Versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Cette annonce fut suivie par une requête montrant combien dur d'entendement sont les disciples. Jésus parle de sa mort et ils s'inquiètent de la position qu'ils auront dans le royaume. Verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Nous avons vu cet incident dans l'évangile de Matthieu. La mère des deux disciples avait demandé des privilèges pour ses fils. Lorsque Jésus leur a demandé s'ils pouvaient être baptisés du même baptême que lui, ils ont répondu « oui ». Versets 39 et 40. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Jacques fut martyrisé, et Jean fut emprisonné sur l'île de Patmos. Il fut peut-être exécuté, nous n'en sommes pas certains. Jésus n'a pas nié l'existence de position dans son royaume. Nous voyons cependant que les positions ne seront pas assignées arbitrairement à quiconque en désire une. Ceux qui les recevront se préparent pour les occuper. Mes amis, le ciel est un don gratuit, mais vous devez travailler pour les récompenses, dont votre position dans le royaume. Ce n'est pas en se tournant les pouces ou en regardant la télévision, en nous gavant de chips, que nous nous préparons à être récompensés. Les récompenses sont le fruit de notre travail pour l'avancement du royaume. Verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ce principe est contraire à ce que nous voyons dans le monde. Pour être parmi les grands du royaume, il faut se faire le serviteur de tous. Si nous aimons notre prochain, nous cherchons son bien. Jésus nous demande de servir, mais il a lui-même donné l'exemple en donnant volontairement sa vie en rançon pour nous, selon la volonté du Père et le dessein de la Trinité. Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà le but de la venue de Jésus, chers amis. Il s'est rendu serviteur de tous. Poursuivons notre lecture, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Chers amis, nous arrivons maintenant au récit de la guérison d'un aveugle, Bartimée. Cela s'est produit à Jéricho. Nous verrons cette guérison en détail lorsque nous étudierons l'Évangile selon Luc, car il en parle aussi. Certains théologiens nient que la Bible est sans erreur parce que Matthieu mentionne qu'il y avait deux aveugles, alors que Marc parle d'un seul. En fait, Marc se concentre sur Bartimée seulement, car c'est lui qui a pris la parole. Lorsque quelqu'un attaque la Bible sur des détails pour lesquels il y a des explications très plausibles, alors je pense qu'il y a un troisième aveugle, celui qui interprète le texte. Nous n'avons pas le temps de donner plus de détails aujourd'hui. Cependant, Jésus a guéri Bartimée, et celui-ci l'a suivi, mais avec les yeux ouverts. Dans quelques jours, nous verrons la mort de Christ à la croix. Êtes-vous aveugle? Ou vous êtes-vous rendu compte que Christ est mort à la croix pour vos péchés? Regardez à la croix et suivez Jésus avec des yeux ouverts. Demandez à Dieu qu'il ouvre vos yeux afin que vous puissiez contempler Jésus comme sauveur personnel. Oui, chers amis, la Bible nous dit que le péché nous aveugle. Il n'y a qu'une seule façon d'y voir plus clair, c'est de demander à Jésus qu'il vienne nous laver, nous purifier de tout péché. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Marc, chapitre 11.
Merci beaucoup, Régent. Avez-vous remarqué, mes amis, à quel point Dieu nous aime? À travers ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui, on a pu voir qu'une personne divorcée, qui prend la décision de recevoir Christ dans sa vie, qui devient un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, est une personne nouvelle qui peut aussi refaire sa vie avec un nouvel époux, une nouvelle épouse. Dieu est gracieux et bon envers nous. Vous trouvez pas? Et même un enfant de Dieu qui répudie son conjoint pour cause d'adultère peut refaire sa vie avec un nouveau conjoint. Dieu veut qu'on soit heureux même ici-bas, en attendant d'entrer dans son royaume pour l'éternité, où il nous réserve une vie parfaite, extraordinaire, dans sa présence à tout jamais. Bien sûr, on peut voir aussi que Dieu n'encourage pas le divorce, et même il le déteste. Il a dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pour ma part, je suis célibataire et je ne cherche pas un époux. Je suis heureuse comme ça. Et même, la Bible m'y encourage. Parfois, j'ai l'impression que Paul a écrit son épître aux Corinthiens, au chapitre 7, au verset 34, juste pour moi. Laissez-moi vous le lire. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Puis il ajoute au verset 40, « Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Alors, Paul nous encourage à être célibataire si Dieu nous appelle à l'être. Je me reconnais en l'apôtre Paul, dans la manière dont il a été sauvé. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 3, il est écrit qu'alors que Paul était en chemin, il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba à terre. Et quand je me suis converti, Dieu a mis une lumière sur mes péchés et m'a amené à une repentance totale. Je pouvais presque physiquement voir la lumière autour de moi tellement que le changement était radical dans ma vie. Spirituellement, je pouvais voir cette lumière qui faisait contraste à la vie de péché que j'avais menée jusqu'à ce moment-là. Puis je suis tombée à la renverse devant la présence de Dieu. Ça a été extraordinaire. Puis ça l'est encore. À chaque fois que j'y pense ou que j'en parle, comme en ce moment par exemple, j'aime tellement me rappeler de ce moment où la lumière est entrée dans ma vie et je suis partie chez moi, l'auto ne touchait pas au pavé, j'étais rendue au ciel, j'étais tellement heureuse. Et ça fait 26 ans que je suis heureuse d'appartenir à Dieu. C'est sûr que j'ai les pieds un petit peu plus sur la terre, c'est nécessaire aussi. Bien, je vous remercie, mes amis, de m'accorder le privilège de vous raconter la joie que j'ai d'appartenir au Dieu vivant, au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Maintenant, si vous êtes marié, je suis certaine que vous pouvez vivre des moments extraordinaires dans la présence de Dieu, vous aussi. Mais je préfère être célibataire. J'aime cette liberté que Dieu me donne d'aller sans contrainte vers les gens qui sont sans Dieu dans le monde pour leur annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois-tu en Jésus?
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir, ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.